France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une loi ? Durant l'occupation, un avocat, Jean-Marie Amédée Parouteau, écrivit un roman intitulé « La ville incertaine » qui fut publié pour la première fois en 1950. Ce livre inclassable passa quasiment inaperçu, même après qu'André Breton en a recommandé la lecture. Il faut dire que dès les premières pages, sa lecture distille une forme d'angoisse qui sort des cadres classiques. Ce n'est ni du Kafka, ni du Nerval, ni du Buzzati, mais on se sent très vite mal à l'aise. Car on ne comprend pas bien comment elle fonctionne, cette ville incertaine. On y patauge existentiellement. Un peu comme le héros qui s'appelle Raned. Raned, c'est l'anagramme de en rade. On y patauge, on est en rade, mais on tient absolument à découvrir la clé de l'affaire. Et on finit par la saisir. Ce livre est une expérience de pensée par laquelle Jean-Marie Amédée Parouteau se demande quelle serait la vie d'une cité si les lois et les règles y changeaient chaque matin à l'insu des habitants. Si les codes s'y trouvaient sans cesse modifiés, chaque fois de façon parfaitement occulte. Par exemple, on aurait le droit d'y voler tel jour et non tel autre, mais sans que personne ne connaisse les lois en vigueur à chaque instant. Personne, sauf les gens dits « à casquette », chargés d'arrêter les contrevenants qui, eux, ignorent qu'ils sont des contrevenants tant que cela ne leur a pas été signifié. Car chaque jour dans cette ville, un démiurge décide de ce qui est licite et de ce qui ne l'est pas, de façon parfaitement arbitraire. Il édicte des lois éphémères inconnues des potentiels justiciables, mais qui sont implacablement appliquées. La violence se trouve ainsi combinée à une sorte de loterie sadique au sein d'un jeu qui vient par effet de retour interroger notre condition humaine. Qu'est-ce au juste que le bien ? Qu'est-ce finalement que le mal ? Comment vivre ? En vertu de quels principes ? Et si la loi n'est pas connue et se modifie sans cesse, quelle conduite adopter ? Quand on referme ce livre, on se dit que finalement, les physiciens ont une vie professionnelle relativement confortable. Eux ont en effet la chance de pouvoir compter sur des lois dites physiques qui ne s'amusent pas à changer de nature tous les quatre matins. Mine de rien, psychiquement, c'est drôlement précieux. Mais cela nous oblige à poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une loi au juste ? Qui doit l'établir ? Comment ? Selon quels critères ? Et que doit-on en attendre ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Richard Malka. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, essayiste, scénariste de bande dessinée.
Aussi.
Vous avez publié deux livres en 2025, c'est beaucoup. Le premier qui s'intitule « Après Dieu », qui est paru chez Stock. Et le second qui s'appelle « Passion antisémite », qui est paru il y a quelques semaines chez Grasset. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas une vie facile. En matière de protection policière, vous faites partie des vétérans. Ça fait combien de temps que vous êtes accompagné par des officiers de police partout
ça,
vous allez ?
Ça fait depuis le 8 janvier 2015. Donc ça fait plus de 11 ans.
Et est-ce qu'à force, on s'habitue ou est-ce que ça crée une bulle qui vous isole et...
Bien sûr que ça crée une bulle, qu'on le veuille ou non. On s'habitue, mais ça crée une bulle. Et plus on s'habitue, plus ça crée une bulle. Mais c'est ainsi, en fait, on essaie de faire comme si ça existait le moins possible, parce que sinon on devient dingue, mais forcément ça vous isole de l'extérieur, ça crée un sas, il faut tout prévoir, on perd en liberté, ce qui est assez paradoxal puisque on défend la liberté. Mais c'est comme ça. Et puis, il y a pire dans la vie.
Alors, avant de parler de la question du jour, qu'est-ce qu'une loi ? Je voulais qu'on revienne un peu sur votre parcours, Richard Malka. J'ai cru comprendre que vous avez passé un bac scientifique.
Eh oui.
Vous avez été élève au lycée Voltaire.
Un bac C.
Vous auriez pu être scientifique, finalement ?
J'ai pensé à l'être. Alors, c'était un bac C, donc vraiment mathématiques.
J'ai connu ça.
Là, pour le coup, je touchais mes limites. Mais j'ai été tenté par la biologie en particulier. J'aimais vraiment. Et j'ai trouvé dans le droit une matière qui est à mi-chemin entre les mathématiques, très logique, et la créativité littéraire.
Mais vous dites que vous n'avez pas voulu spécialement être avocat, que vous avez fait du droit par hasard, je vous cite. Mais vous dites aussi que le hasard a bien fait les choses. C'est-à-dire que vous vouliez pas être avocat, vous n'y pensiez pas, mais vous êtes content de l'être devenu.
Je pense qu'aucune profession au monde ne convenait davantage à ma nature. Parce qu'elle permet de changer de sujet, de matière, il n'y a jamais aucune routine. Elle permet de travailler seul. Et ça, c'est pour moi, en tout cas au début, c'était vraiment important. Ça correspondait à ma nature. Et je vous dis, ça permet d'être dans l'actualité, dans des débats de société très
chaud,
très chaud, très brûlant même parfois. Donc ça me convenait bien. Mais c'est un hasard. C'est vraiment ma bonne étoile.
Vous avez demandé à faire un stage.
Parce que je suis censé être complètement athée, mais c'est en tout cas la chance qui m'a conduit à ça, parce qu'effectivement je n'ai jamais pensé à l'être, même quand j'étais à l'école des avocats où j'ai vraiment suivi j'ai un peu suivi le mouvement, j'ai passé le concours, j'ai été à l'école, je pensais davantage devenir professeur de droit qu'avocat.
Mais vous avez rencontré un peu par hasard, pour le coup, Georges Kegeman, qui a été votre mentor, c'est comme ça que vous l'appelez. Comment est-ce que ça s'est fait ?
Alors, à partir du moment, complètement, je le raconte dans...
L'histoire de l'annuaire, je crois.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de licence, moi, je viens vraiment d'un milieu populaire, je connaissais aucun avocat. À la fac, on a 4 mois de vacances, donc à un moment, faut bien utiliser ce temps-là. Je me dis que je vais faire un stage dans un cabinet d'avocats, mais je n'en connais pas. J'ouvre l'annuaire. À l'époque, il était encore papier. Et tout ça, je devrais pas dire ça parce que ça donne une idée de mon grand âge. Et je pointe mon doigt qui tombe par hasard sur un avocat qui fait de la propriété littéraire et du droit des marques. Je lui rends hommage, Jacques Zazo. Et très gentiment, je l'appelle. Il m'accepte pendant un mois alors que je ne savais rien faire. Du coup, j'ai connu cet homme-là qui, lorsque je suis rentré dans l'école des avocats et que là, j'ai eu besoin de faire un vrai stage et je voulais le faire en pénal, je l'appelle et lui me dit « Eh ben écoute, moi, je connais le collaborateur de Georges Kegeman, vas-y de ma part. » Et c'est comme ça que l'aventure commence. Donc, ma carrière a été placée sous le sceau de l'annuaire téléphonique.
Très bien. Et vous dites que Georges Kegeman répétait souvent « Les chaussettes me tombent des chevilles ».
Georges Kegeman avait cette expression-là que je lui vole effectivement. Voilà.
Qu'est-ce qui vous fait tomber, qu'est-ce qui fait tomber vos chaussettes de vos chevilles? Qu'est-ce qui vous sidère?
L'audace, la bêtise, l'absurdité, la méchanceté, plein de choses. Je m'indigne, j'ai gardé une vraie capacité d'indignation.
Donc vos chaussettes tombent souvent.
Souvent des chevilles. et c'est une image très marquante qui en général fait sourire les magistrats devant lesquels je plaide, donc je n'hésite pas à l'employer.
Alors Richard Malka, je vous ai invité, non pas pour qu'on parle de vos livres, même si on va y faire allusion de temps en temps, mais plutôt que pour qu'on tente de répondre à la question, puisqu'en tant qu'avocat, vous avez été dans des situations, vous avez vécu des situations dans lesquelles plusieurs sortes de lois étaient convoquées. Des lois pénales, des lois religieuses, des lois morales, ce qui vous a sans doute amené à réfléchir à la notion de loi, à ses fondations, à la légitimité de la loi, mais aussi à la hiérarchie que certains voient entre différentes sortes de lois. Est-ce que vous avez lu ce roman dont j'ai parlé, La ville incertaine?
Non, mais il me fait furieusement penser, évidemment, à 1984, où tous les soirs, on réécrit l'histoire.
Exactement, c'est une sorte de préfiguration de ce roman de Orwell. Mais en fait, ce roman montre que lorsque le lien entre loi et permanence est détruit, toutes les références se dissolvent. Notamment la justice, le sens de la vie, les rapports entre humains, qui perdent leur point d'appui.
C'est pour ça qu'il y a un grand principe, qui est la rétroactivité de la loi pénale. Parce que sinon, on devient fou, effectivement. Donc, vous êtes jugé en fonction de la loi de l'époque où vous avez commis le fait, pas de la loi ultérieure. Sinon, c'est d'une cruauté absolue.
Ceci, et puis, on n'en finirait pas.
Ça, c'est dans les principes et c'est dans les textes. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. J'ai défendu il n'y a pas très longtemps un dessinateur de bande dessinée qui a fait des albums pornographiques vendus comme étant pornographiques, donc interdits aux moins de 18 ans, À l'époque où il les a fait, ça ne posait aucun problème. Et tout le monde rigolait. Et il était invité à Culture, sur Inter, et c'était une grande star. Et puis, quelques années plus tard, l'époque a changé, les mœurs ont changé, les perceptions ont changé. Et donc, on a revisité ces albums, qui dataient de 5, 10 ans parfois, pour considérer qu'ils étaient extrêmement condamnables. Par la vision des femmes, par parfois des propos graveleux et sulfureux avec des représentations de mineurs. Et ce qui faisait rire à l'époque ne faisait plus du tout rire aujourd'hui. Et ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale qui est inscrit dans les textes, lui, n'en a pas bénéficié dans les faits. Alors, il n'a pas été condamné juridiquement, mais moralement. Au point que l'on a déprogrammé, je parle de Bastien Vivès, que l'on a déprogrammé son exposition. Donc, au moins, judiciairement, on a cette protection-là que, parfois, nous n'avons pas sous l'angle de la morale.
Mais, Richard Maca, est-ce que vous connaissez des exemples de lois universelles, c'est-à-dire qui existent partout, dans toutes les juridictions, quelles que soient les cultures?
Tu ne tueras point. Et encore, il y a des exceptions. C'est ça qui est bien avec les lois humaines. Le policier, il peut avoir le droit de tuer. Le militaire, il a le droit de tuer.
Il y a la peine de mort dans certains pays.
L'euthanasie, dans certains pays, existe. C'est un droit d'ôter la vie. La peine de mort existe dans certains pays encore, malheureusement. Donc, c'est de toute façon, toutes les lois humaines sont très relatives. Mais enfin, ce commandement-là est quand même, dans son principe, assez général.
Mais il y a quand même peu de lois vraiment universelles.
Non, et puis la loi, la différence des lois scientifiques, effectivement, c'est que ça change. C'est abrogé, c'est aboli, ça évolue. Un jour, l'homosexualité est un délit, le jour suivant, il ne l'est plus. Un jour, les femmes n'ont pas le droit d'avoir de compte bancaire ou d'avorter. Le lendemain, elles ont le droit. Et puis peut-être que le jour d'après, comme aux États-Unis, on leur ôte à nouveau. C'est très relatif, une loi. Ça dépend des majorités politiques, ça dépend de l'évolution des mœurs. La gravité, on peut pas l'abroger.
Non, on peut changer la façon de la comprendre.
On peut l'interpréter différemment. Mais
on peut même la décrire par des équations différentes. Celles d'Einstein ne sont pas les mêmes que Newton. Mais on ne fait pas ça tous les quatre matins.
Non.
Loi universelle, vous connaissez l'anagramme ?
Non.
La loi universelle a été trouvée par Olivier Garcia. Loi universelle a pour anagramme l'illusion rêvée.
C'est
ça
joli.
Fait une sorte de rêve au carré, c'est ça.
Joli.
C'est une illusion. En plus, elle est rêvée. Ah, donc,
oui.
Ça fait beaucoup. Alors, justement, vous parlez de la différence entre les lois juridiques et les lois physiques. Moi, je vois au moins quatre différences. Vous avez fait un bac scientifique, donc vous allez comprendre ce que je dis. D'abord, en physique, il n'y a pas de différence entre le droit public et le droit privé. Les particules obéissent toutes aux mêmes lois, sans qu'aucune puisse revendiquer quoi que ce soit qui pourrait la singulariser. Les électrons n'ont pas de vie privée, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'occasion de dire à leurs semblables « moi je suis pas comme vous ». Deuxième différence, les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Alors les lois de la physique, elles changent. Il y a une histoire des lois de la physique, mais les vraies lois physiques, on pense qu'elles ne changent pas au cours du temps. Ça veut dire que un phénomène physique, une expérience de physique, donnera toujours le même résultat, quel que soit le moment où on la réalise. Troisième différence, dans une société donnée, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart entre les lois et l'opinion, sans quoi les lois perdent en autorité. Si elles sont choquantes pour l'opinion, elles risquent d'être refusées. Alors qu'en physique, les lois sont contre le bon sens. Même si on prend la physique classique de Galilée, quand Galilée dit « un corps qui n'est soumis à aucune force va en ligne droite à vitesse constante », ça veut dire qu'il peut y avoir du mouvement sans force. Et on se demande pourquoi il faut pédaler quand on fait du vélo. Donc les lois physiques contredisent un certain sens commun. Et puis, quatrième différence, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un désaccord entre une loi et la société, ou alors en physique, entre une loi et des phénomènes physiques nouveaux qui viennent la contredire ? Ben en physique, soit on dit qu'il y a dans le monde des choses qu'on n'a jamais vues, qui, si elles existent, rétablissent l'accord, soit on change la loi. On fait une sorte de révolution scientifique. Alors que dans votre domaine, le droit...
On fait une révolution.
Alors c'est le peuple qui fait la révolution, donc les juristes, ils font quoi? Ils changent la loi?
Non, ils font pas forcément... Oui, ils l'interprètent différemment. C'est le biais de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'une même loi peut, au fil du temps, sans être réécrite, être interprétée de manière complètement différente. Et là, on retrouve le biais du commentaire religieux. Une même loi religieuse évolue aussi, en réalité, au cours des siècles et voire des milliers d'années, selon l'interprétation et les commentaires qui en sont faits. La loi scientifique se distingue. C'est la plus intangible. Et il y a une cinquième différence, d'ailleurs, c'est la source.
Oui.
La source des lois,
on vote pas.
Qu'elles soient religieuses ou juridiques, elle est humaine. C'est les peuples qui décident, c'est les hommes. La source de la loi physique, elle est immanente, c'est l'univers.
Il y a un texte de David Hume qui dit que la souveraineté du peuple s'arrête justement sur cette question. C'est-à-dire que si le peuple décide collectivement de dire que la Terre est immobile et que le Soleil tourne autour, ça n'empêchera pas la Terre de continuer à tourner autour du Soleil. Donc c'est une sorte de limite au pouvoir de l'opinion, si on peut dire. Mais vous, quelles sont les situations où, entre une loi, disons, juridique, et un autre type de loi, une loi morale, une loi religieuse, vous avez vécu de façon très, très difficile?
Alors, parfois, elles se confrontent. C'est évidemment la question du blasphème. Mais il y en a bien d'autres. La question de l'avortement est aussi un lieu de confrontation entre les lois humaines et les lois interprétées, les lois de Dieu. C'est ma manière de définir la laïcité. Parce qu'il faut, c'est compliqué à définir. Et quand je vais dans des écoles, il faut trouver quelque chose de simple pour parler aux jeunes. Et en fait, je dis, mais en fait, la laïcité, c'est tout simple. C'est considérer que les lois des hommes sont supérieures à celles de Dieu. Pour vivre ensemble, avec toute notre diversité, en venant de religions différentes, il faut considérer que ce qui fait la loi commune, ça ne peut pas être la loi de Dieu, parce que sinon, on se confronte. Et ce sont les guerres des religions. Donc c'est forcément, et c'est l'histoire de ce pays, à un moment, on dit que les lois des hommes sont supérieures à celles de Dieu. Vous avez la spiritualité que vous avez chez vous, vous appliquez les lois que vous voulez, vous habillez comme vous voulez, vous aimez qui vous voulez, mais dans l'espace commun, eh bien, ce sont les hommes qui décident de comment ils s'organisent, vivent ensemble. En fait, la loi, il en existe forcément dès que vous êtes plus que tout seul, dès que vous êtes deux. Dès que vous êtes deux, il faut régenter votre rapport à l'autre, précisément. Il faut vous interdire de le tuer, ou de le voler, ou de lui voler sa femme. Je reviens aux 10 commandements. Sinon, pour être complètement libre, il faut vivre en ermite, au fin fond d'une forêt, c'est une bomber. Mais dès que vous êtes deux, vous avez besoin de loi. Et il vaut mieux que ce soit une loi définie par les hommes que par celle de Dieu, qui dégénère en général en dogme absurde et en instrument de pouvoir à l'égard de l'autre.
Mais Richard Malka, la loi de 1905, elle est souvent invoquée, elle est rarement lue. Qu'est-ce qu'elle dit vraiment? Et est-ce qu'à votre avis, compte tenu de ce qui se passe dans le monde, il faudrait la réviser?
Alors, on fait souvent cette confusion. En fait, la laïcité, c'est bien plus que la loi de 1905, qui d'ailleurs ne prononce pas le mot de laïcité. La laïcité, c'est les lois sur l'instruction civique de la fin du 19e siècle. C'est un ensemble qui comporte bien d'autres lois que la loi de 1905. La loi de 1905, elle consacre le principe de la liberté de croire, de ne pas croire, et l'exclusion de la religion de la sphère publique. La religion, en l'occurrence, chrétienne. Et elle interdit, par exemple, aux prêtres, aux évêques, d'avoir des discours qui iraient à l'encontre des valeurs républicaines. C'est puni d'une peine de prison. Et il y a eu des sermons qui ont entraîné des poursuites et des condamnations de prêtres en leurs églises. Mais encore une fois, la laïcité, c'est plus important que ça. C'est une école laïque. C'est la mise à l'écart de la religion des affaires publiques, en fait. C'est l'Église chez elle, l'État chez lui. C'est Victor Hugo.
Mais Richard Malka, quand un groupe humain décide de nouvelles lois, ça veut dire que il pose une sorte d'écart entre ce qu'il perçoit de ce qu'il est et de ce qu'il voudrait être. C'est-à-dire que quand on édicte une nouvelle loi, ça veut dire qu'on a l'idée d'une sorte de dynamique qui permettrait, grâce à cette loi, de modifier la société, ses comportements, sa législation.
Oui, par exemple. Avant, il n'y avait pas de loi contre le racisme et l'antisémitisme. Pendant très longtemps. Au XIXe siècle, il n'en existe pas. Et puis, arrivent les ligues, la montée de l'antisémitisme, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Et là, on se dit, 1972, les lois Pleven, il faut combattre les discours haineux. On veut être dans une société qui ne les permet plus. Alors, il y avait eu des tentatives avant, mais en gros, voilà. Ou alors, en 1969, on se dit, il faut protéger la vie privée. Avant, il n'existait pas de loi protégeant la vie privée, ce qui permettait de mettre au supplice certaines personnes. C'est l'histoire de la veuve Caillot qui va tuer le directeur de publication du Figaro parce que après avoir été demandé rendez-vous au président du TGI, du tribunal de grande instance, je dis, non, mais qu'est-ce que je peux faire contre la révélation de ma relation amoureuse? Et le président du TGI lui dit, mais il n'existe pas de loi. Évidemment, la société évolue. Aujourd'hui, on protège la vie privée. Aujourd'hui, il y a des lois contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a eu une loi contre le négationnisme, la loi Guesso, plus tard. Donc, les lois correspondent à un état des mœurs de la société qui, à un moment, se dit « on va être meilleur, en général ». Et après, on a rajouté à ces lois la lutte contre les discriminations fondées sur le genre, la sexualité. Donc oui, c'est la société avance en civilisation et ces lois sont censées refléter cette avancée. Normalement, ça, c'est quand tout va bien.
Mais il y a des cas où ça ne va pas bien. Richard Malka, une société a quand même du mal à dégager une volonté générale sans s'affronter parfois très durement. C'est-à-dire que chacun de ses membres se proclame épris de justice et de paix, mais ce but, fabriquer une volonté générale, est inaccessible sans que les uns s'opposent aux autres.
Bah oui,
et donc la loi, quand elle est discutée, peut provoquer de la violence.
Ah bah, s'il y a un domaine où les choses sont relatives, c'est la loi. Parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, et ce à quoi vous faites référence, c'est une certaine vision du bien. Sauf que personne n'a la même vision que son voisin. Si nous confrontons tous les deux notre idée de ce qui est le bien et le mal, on ne va pas arriver aux mêmes conclusions. Et la loi est censée exprimer ce qui est le bien pour une majorité qui a élu des représentants. Et c'est pas toujours, c'est pas parce que c'est une majorité qu'elle a raison et qu'elle a raison de voir le bien ou elle pense voir le bien.
Mais
et donc ça crée des. Ce que je veux dire, c'est que dans ce domaine-là, on est forcément en tension en permanence.
Oui, mais on peut l'être aussi même quand la loi a été votée.
Bien sûr.
C'était au nom de ses valeurs personnelles, bien on sûr. Peut contester une loi au motif
bien
qu'elle
sûr.
Trahit.
Prenons la peine de mort, qui est censée faire un peu unanimité, mais on voit que c'est de moins en moins le cas.
Elle faisait
l'abolition de la peine de mort.
Elle ne faisait pas unanimité avant d'être décidée, votée.
Avant, elle ne le faisait pas, et puis elle l'a fait, et puis elle ne le fait plus. Si aujourd'hui, on faisait... un sondage, je suis même à peu près sûr que la majorité serait pour revenir sur cette abolition. Oui, la tension est permanente. Et c'est toujours un mouvement de balancier.
Richard Malka, on est là avec vous pour discuter de ce qu'est une loi. Est-ce que vous avez une définition? Est-ce que le droit donne une définition, disons, générale de l'idée de loi? Ou est-ce qu'il y a tellement de typologies différentes qu'on n'y arrive pas?
C'est impossible à définir. C'est ce qu'il y a de plus impossible. C'est un commandement,
ça peut être une norme.
Un comportement, c'est une injonction, c'est une règle. C'est une règle. Mais il y en a tant de types, avec, par ailleurs, à chaque loi, vous avez tant d'exceptions, parce que vous avez toujours, il y a toujours un motif légitime de ne pas respecter la loi. Le cas de force majeure. La contrainte, le commandement de la loi. Donc, On est dans une extrême relativité. Vous n'avez pas, en matière scientifique, il n'y a pas une dérogation au fait que 2 et 2 font 4.
2 et 2 font 5 pour les grandes valeurs de 2.
Là, je ne vous suivrai plus. Mais enfin, pour les béotiens que nous sommes...
En tout cas, quand il y a une exception, quand il y a un écart, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on s'interroge. Est-ce qu'il faut changer la loi ou est-ce qu'il y a un phénomène caché qui, s'il est pris en compte, rétablit l'accord entre le phénomène et la loi?
Et parfois, ça met 15 ans.
Oui, parfois...
Y a des entre cas... le moment où on commence à réfléchir, parce qu'on se dit qu'il y a un problème... Je prends les exemples de régulation... de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et dans le monde numérique. Ça passe par le niveau européen. Ça met au minimum 10 ans entre le moment où on identifie une problématique, la violence, les propos haineux, le harcèlement, et le moment où une loi rentre en application au niveau européen. Et dans ce délai-là, la technique, la science a avancé. Et donc, au moment où vous promulguez la loi, elle est en réalité déjà dépassée.
Elle peut être dépassée par la technique.
Elle est dépassée.
Par exemple, aujourd'hui, on peut, avec de l'IA, reprendre la voix de quelqu'un, faire des podcasts dans lesquels cette personne dit avec sa voix absolument n'importe quoi. C'est pas reconnu comme un délit.
Alors, j'ai eu un cas comme ça. Je poursuivais Dieudonné à raison d'une de ses vidéos où il disait des horreurs. Et lui disait au tribunal, arrive au tribunal, on dit non, mais c'est pas moi, c'est un deepfake. Il y a encore des moyens d'expertiser et de savoir, en tout cas judiciairement, de fixer où est la réalité. Mais peut-être qu'un jour, on n'y parviendra plus. Alors là, ce jour-là, on sera dans la confusion totale. Où sera le vrai et où sera le faux?
En tout cas, on peut parfaitement reprendre la voix de quelqu'un pour lui faire dire autre chose que ce que cette personne a dite.
Oui, mais vous voyez le montage. Normalement.
Pas avec la voix, avec l'image, oui. Quand c'est de l'IA qui déforme le visage pour que...
Oui,
on le voit, mais ça va s'améliorer. Mais la voix, on peut être vraiment trompé.
Voilà. Et oui.
Richard Malka, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais est-ce que c'est pas un vœu pieux? C'est-à-dire qu'il y a tellement de lois, rédigées parfois d'une façon complexe, que même vous, vous ignorez sans doute certaines lois. Donc, que veut dire cette phrase?
Alors, d'autant que l'inflation législative est telle que, effectivement, ce n'est vraiment plus possible d'avoir une connaissance.
Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de se rapprocher de la situation de la ville incertaine? Non pas où on change la loi tous les quatre matins, mais où les lois sont tellement inconnues qu'on vit comme si elles n'existaient pas.
Vous ne pouvez pas. Aucune société ne peut vivre sur un autre précepte que celui-là, en fait.
Oui.
S'il suffisait de dire je ne connais pas la loi. Pour excuser un comportement déviant, ça serait pas possible de vivre en société. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. Mais vous avez raison, la complexité devient telle, mais dans tous les pays, pas qu'en France, parce que nos activités deviennent de plus en plus complexes, parce que la science, parfois, elle-même, va de plus en plus vite et devient plus... Parce que les relations humaines se complexifient, que c'est très compliqué, que la plupart du temps, on peut ne pas savoir que l'on enfreint une loi. Après, il y a des lois simples. On n'a pas le droit de vendre de la drogue, de voler son prochain, voilà. Ça, on est tous censés le savoir. On n'est pas censé escroquer ses voisins, ni annexer un bout de trottoir pour en faire son jardin. On le sait, c'est des lois naturelles en quelque sorte. C'est encore autre chose, ça. C'est les lois qu'on est tous censés connaître parce que ça correspond à une certaine évidence de ce qui est bien et de ce qui est mal. On en revient toujours à ça.
Mais quand on regarde les lois physiques, pour revenir à elles, on a tout à fait le droit de les violer dans les discours, de faire des promesses qui les bafouent. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, Elon Musk a fait une conférence dans laquelle il a annoncé que bientôt on pourrait aller dans d'autres systèmes
solaires
que le nôtre. Par exemple, autour de Proxima du Centaure, qui est une étoile la plus proche du Soleil, qui est à 4,2 années-lumière.
L'étoile du Berger.
Voilà, mais quand on fait des calculs, on voit que ça va prendre du temps. 4 années-lumière, ça veut dire que si on y va à 1000 km par heure, ça va prendre 4 millions d'années. Si on y va à des vitesses plus élevées, ça peut prendre des dizaines de milliers d'années. Mais c'est pas un rêve qu'on peut vendre comme ça sans poser la question de savoir quelle technique, quelle solution on envisage pour le réaliser. Et le fait, même si vous dites urbi et orbi que la Terre est plate, ça n'est pas un délit. Donc comment est-ce que vous comprenez le fait que on puisse ne pas du tout respecter dans ses discours, ni même dans sa façon de penser, ce qu'on sait de la science?
Parce que nous sommes des êtres humains, tout simplement, très imparfaits. Il y a même des gens qui pensent que la Terre est creuse. J'ai vu ça dans mes dossiers. Il y a des complotistes qui pensent que Hitler et Elvis Presley vivent encore quelque part sur une île déserte.
Ensemble ?
Peut-être, je sais pas. mais après, ça relève de la liberté d'expression, de pensée, d'opinion. Vous allez pas, ça deviendrait une dictature, une tyrannie, d'imposer aux personnes de croire dans la science. On a le droit de ne pas y croire. On a le droit d'être rêveur, de croire à des... Et dans ce cas-là, il faudrait interdire de croire en Dieu. Moi, je veux bien, ça me gênerait pas.
Mais qu'est-ce qu'on fait contre la science?
Parce que Dieu, il n'a jamais été prouvé son existence. Donc comment vous faites?
Oui, mais quand la science et la religion se contredisent, on fait comment?
On cohabite très bien en ayant des contradictions. Il y a des couples très amoureux, j'en connais, où l'un est croyant et l'autre très rationaliste. C'est pas très grave. En fait, on fait comment? Il faut juste accepter que l'autre puisse penser différemment.
Alors, Richard Malka, on avance lentement, enfin rapidement en fait, autour de la question qu'est-ce qu'une loi. Vous me dites qu'il n'y a pas de définition complète.
Non.
Elles sont toutes imparfaites.
Oui.
Mais on a dit tout à l'heure que vous avez fait vos études au lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement à Paris.
J'étais prédestiné.
Mais vous avez passé une nuit au Panthéon, à côté
de Voltaire.
Du tombeau de Voltaire. Alors, d'où est venue cette idée saugrenue? Et pourquoi l'avez-vous fait? Qu'en avez-vous tiré? C'est le sujet de votre livre Après Dieu.
Après Dieu. Oui, c'est une nuit au musée. C'est une collection dont le principe est que l'auteur choisit un musée pour y passer une nuit entière.
C'est pas un musée, le Panthéon?
Non. Mais j'ai quand même eu le droit de
une dérogation.
Une dérogation, surtout quand je leur ai dit que mon choix numéro 2 était le musée de Kiev. Là, l'éditeur a tout de suite considéré que le Panthéon, c'était bien, en fait.
Pourquoi Kiev?
Parce que je voulais aller là où ça avait du sens pour moi. Je me voyais mal aller parler de tableaux ou de sculptures au musée du Louvre. J'ai aucune légitimité pour faire ça. Par contre, aller là où l'actualité se fait, ça m'intéressait vraiment. Et au Panthéon, avec Voltaire, qui est l'homme des Lumières, qui a combattu le fanatisme religieux, qui a combattu pour la liberté d'expression, qui a judiciairement combattu pour le Chevalier de la Barre, pour Callas, pour faire triompher un semblant de raison contre les lois de Dieu... là, pour le coup, évidemment, ça avait du sens pour moi, qui est toujours considéré que mes amis de Charlie Hebdo étaient en quelque sorte les arrière petits-enfants de Voltaire. Alors, et donc j'ai eu discussion une nuit entière avec Voltaire.
Oui, c'est passionnant. Vous dites au passage que vous proposeriez bien que Voltaire devienne la nouvelle effigie de Marianne.
Absolument. Alors, dans toutes les mairies de France.
C'est quoi l'argument principal?
Parce que qui plus que lui symbolise la liberté? Alors après, on va me dire que la liberté, les lumières, la raison, la tempérance, la tolérance, le combat pour ses valeurs, serait un magnifique symbole. Ça définirait, ça singulariserait ce qu'est notre pays, ce qu'est l'esprit français, ce qu'est la République, ce qu'est la laïcité. C'est... aussi l'inventeur de la laïcité. Alors évidemment, on pourra me répliquer que c'est un homme, ce qui n'a échappé à personne, et que en conséquence, mais à notre époque,
oui,
voilà, je considère que nous pourrions avoir des Marianne masculins.
Mais Voltaire, philosophe des Lumières, on est bien d'accord. Mais les Lumières, elles font une distinction assez nette entre le bien et le mal. Et l'idée principale, c'est que Le négatif est relatif, c'est-à-dire ce qui est mal n'est pas condamné à demeurer le mal, mais peut être sorti de sa négativité. Finalement, le mal, c'est le ferment du meilleur. Or, et le XXe siècle l'a montré, quand on a une idée trop précise de ce qu'est le bien, on n'hésite pas à faire le mal.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, Voltaire le dit à sa façon, il dit, je vous cite, enfin, c'est vous qui rappelez cette citation, « La vertu est le ressort principal de la tyrannie ».
Oui, et depuis Socrate, on sait que le mal est fait par ceux qui pensent faire le bien. Toujours. Les terroristes du 11 septembre...
Est-ce qu'il y en a qui ont regretté, qui ont dit...
Mais non, mais ils pensent, quand ils précipitent leur avion sur les tours, ils pensent faire le bien. Ils pensent que leur cause est juste. C'est-à-dire qu'on peut faire les pires horreurs. Je le dis souvent, je pense que Mohamed Merah, quand il exécute une petite fille de 3 ans, pistolet sur la tempe, et qu'il se filme. Donc, s'il se filme, c'est qu'il pense être du bon côté. Ouais. Forcément. Et l'être humain est fait ainsi. Ça n'existe pas, en fait, un être humain qui agit, qui est dans ce type d'action, disons, je fais le mal. Un être humain a toujours besoin de se dire qu'il fait le bien. Et il se trouve des raisons pour commettre des meurtres, des vols, des excuses, des raisons, des explications, toujours. Le fait de se dire, en fait, ça ne veut rien dire. Je la recherche du bien. Tout le monde pense qu'il agit bien dans des sens complètement différents.
Il faudrait plutôt se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le mal.
Ouais, mais ça aussi, c'est totalement relatif, en fait. En fait, la seule garantie, c'est de penser contre soi-même. C'est de cultiver le doute. C'est de se remettre en cause soi-même.
Penser contre son cerveau, comme disait Bachelard.
Oui, ce qu'il faut essayer de faire en permanence.
Et est-ce que vous avez...
Et éviter d'avoir recours à des simplifications, des idéologies extrémistes, faciles, des idéologies victimaires, qui empêchent le doute, qui empêchent de se remettre en cause, et donc la liberté d'expression. C'est ça, en fait, la garantie de ne pas tomber. C'est accepter d'entendre quelque chose qui vous choque, qui vous heurte, qui vous blesse. Accepter d'entendre l'opinion complètement contraire. Et c'est d'ailleurs ce qui vous permet de raffiner votre argumentation. C'est la garantie de ne pas sombrer dans le fanatisme.
Mais vous dites, Richard Malka, que lorsque vous étiez jeune, et moi j'ai été jeune avant vous, parce que je suis plus vieux que vous, la religion de vos camarades n'était pas un sujet, je confirme.
Ouais.
Bon, moi, je connaissais même pas la religion.
Pas moi non plus.
C'était pas un sujet. On avait d'autres centres d'intérêt bien plus passionnants. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que la religion a pris une place beaucoup plus grande, non seulement dans la vie privée, mais dans la vie publique, dans nos sociétés?
C'est fou, parce que ça a été quand même très vite. On n'a pas 150 ans non plus. Or, moi j'étais au lycée Voltaire, dans un quartier très populaire. C'était déjà très divers. Il y avait des personnes de toutes origines et religions, mais ce n'était... Mais même pas une seconde, c'était un sujet. Et ça l'est devenu terriblement. Et on voit à quel point ça a entraîné des tensions. En fait, dès que la religion revient sur le devant de la scène, ça crée des conflits. Et ça crée des tensions. C'est ça que ça prouve. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Il y a évidemment, ne pas le dire, ce serait contourner le problème. Il y a une place de l'islam en tant que fait religieux qui n'a pas eu ce travail qu'a fait le christianisme, et ça a été difficile. Je vous le dis, on a envoyé la police et puis on a même envoyé l'armée parfois. Et les conflits ont été extrêmement durs. Sécularisation, en fait. Ce travail de sécularisation, d'abandon du champ politique. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, parfois, le christianisme... il y a des courants, en tout cas, qui ont des revendications politiques. Alors, du côté catholique, il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est devenu assez marginal. Mais on voit dans le protestantisme un nouveau phénomène avec l'évangélisme très opposé à la laïcité, très revendicatif. Donc il y a toujours il y aura toujours une confrontation entre le politique, c'est-à-dire l'expression de ce que les hommes veulent faire d'eux-mêmes, et le religieux.
Et là, pour l'expliquer par un Richard Malka, par une sorte de mouvement de balancier. Entre une sécularisation qui finit par agacer, du coup, retour des religions.
Oui, parce que besoin d'une transcendance.
Mais il y a quand même une dynamique très rapide, vous l'avez rappelé, qui fait que le religieux se devient un fait presque politique énorme, alors qu'il a été, pendant très longtemps, marginalisé.
Parce qu'effectivement, on a besoin d'un plus grand que soi, d'une transcendance, que les idéaux de la Révolution ou l'idéologie communiste, qui en réalité a servi de religion à certains, en tout cas c'était un rêve, un plus grand que soi, tout ça a cédé, s'est éloigné, et donc il y a un vide. Et l'homme a besoin de le croire, ce vide. De foi.
Et donc vous posez la question dans votre livre « Après Dieu », Richard Malka, vous posez la question suivante, comment trouver un substitut à la consolante transcendance du divin ?
Ben oui.
Et vous admettez qu'il y a un besoin de transcendance,
ah bah oui.
qu'il faut satisfaire d'une façon ou d'une autre.
C'est une conversation avec Robert Badinter, que je raconte dans ce livre, qui m'a fait prendre conscience.
Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Il m'a dit, mais tu peux faire ce que tu veux, mais l'homme a besoin d'un plus grand que soi. L'ouvrier du Sri Lanka qui bosse 15 heures par jour dans son usine à la chaîne, l'agriculteur qui s'échine dans son champ au Bangladesh pour quelques sous, on peut pas leur enlever la croyance dans le fait que après il y aura une vie meilleure. Sinon, c'est trop dur. C'est impossible. Et puis, tout un chacun, on a besoin de croire en quelque chose de plus grand. Sinon, il y a des gouffres partout. Sinon, à quoi bon ? Tout est vain. Où est le sens ? Et donc, il faut un plus grand que soi. Et je pose cette question à Voltaire dans ce livre. Comment on fait quand on ne croit pas ?
Oui, vous inventez une sorte de dialogue entre lui et vous.
Oui. Et quand on ne croit pas, quand on ne croit plus, comment on fait ? Comment on fait pour se débrouiller dans cet univers où nous ne sommes qu'un battement de paupières pour ne pas devenir fou ?
Alors vous énoncez des sortes de principes qui pourraient servir entre guillemets de transcendance. Le premier, vous appelez ça un premier commandement.
On peut.
Tu devras être libre plutôt qu'esclave. Et le second, il n'y en a que deux. Tu accepteras la critique de tout ce à quoi tu crois.
Ah, ça me va.
Mais ça demande une ouverture.
Je ne renie pas ce que j'ai écrit.
Ça demande une ouverture d'esprit colossale.
Alors, c'est les avocats sont habitués à ça.
Un esprit d'ouverture, on dirait à France Culture.
Les avocats sont habitués à ça, puisque nous, on vit de la contradiction. Chaque procès, on est confronté à un avocat adverse qui est en général aussi compétent que vous et qui trouve toujours des bons arguments à vous opposer. C'est très énervant. Donc, il faut faire avec. Et en fait, les bons avocats sont ceux qui prennent le temps d'étudier les arguments adverses, de les intégrer, de se demander « mais en fait, est-ce qu'il a pas raison ?» Donc de se mettre en doute en permanence pour trouver des contre-arguments. Et en fait, notre dialectique, elle est permanente. Donc, pour nous, c'est assez naturel comme fonctionnement. Et on peut, et je vous assure que ça arrive, on peut se foutre sur la gueule très 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 durement dans une salle d'audience, s'opposer très violemment, s'agresser, mais c'est codifié. Chacun son tour, il y a un juge qui est un arbitre, il y a des règles, il y a une déontologie, et quand on sort de la salle d'audience, nos clients ne le comprennent jamais, on se serre la main, on peut même aller boire un café ensemble, il n'y a aucun problème.
Mais est-ce qu'on pourrait pas vous reprocher alors de jouer des sortes de jeux de rôle ?
Non, c'est pas des jeux de rôle, c'est des codes. En fait, quand on plaide, quand on est dans la salle d'audience, on est tout à sa cause, et on est sincère. Mais après, C'est on respecte notre robe, notre code, qui fait qu'on doit pouvoir continuer à vivre ensemble, à se parler, à travailler l'un avec l'autre, parfois l'un contre l'autre, parce que sinon on est toujours en guerre les uns contre les autres. C'est l'altérité judiciaire, en fait. Et je trouve que c'est un joli modèle, en fait.
Mais est-ce que dans l'expérience que vous avez eue de différents procès, dans lesquels il y avait des gens accusés de participer à des entreprises terroristes, Richard Malka, est-ce que vous avez assisté à des cas d'apostasie, c'est-à-dire de gens qui ne croient plus dans les lois qui avaient pourtant déterminé leurs actions passées, une sorte de conversion sincère, de regret?
J'ai jamais été convaincu, en tout cas. J'ai entendu des regrets. Mais ça, c'est facile de dire je suis désolé, pardon, je regrette. Tout le monde peut le dire quand on sent que son intérêt c'est de le dire. Des retours sur soi, des analyses de soi, ça j'aurais aimé entendre. Ça m'est arrivé, pour être honnête, oui, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais c'est rare. C'est rare parce qu'une fois que ça a pénétré votre cerveau, en fait, on ne sait pas déradicaliser. C'est vraiment très compliqué.
Ben, Gérald Bonheur dit que ça prend 7 ans.
Ah oui, je pense que c'est un minimum. Parce que c'est des configurations mentales qui changent. C'est une drogue dure, en fait, la radicalisation. C'est très compliqué de faire le chemin arrière.
Et quel regard les gens qui sont radicalisés portent-ils sur les lois de la République ?
Ils les méprisent. C'est leur ennemi. C'est leur ennemi. L'exemple qui me vient, évidemment, c'est celui de l'assassinat du professeur Dominique Bernard, dont je m'occupe de la famille. Et là, l'assassin l'écrit. On ne peut plus clairement. Il tue ce professeur parce que il enseigne les droits de l'homme, la laïcité, les valeurs de la République. Et que ça va à l'encontre de ce qu'il considère être les lois d'Allah. Et donc, il l'écrit comme ça. Il n'avait qu'à pas enseigner les droits de l'homme. Parce que dans son esprit, ça va à l'encontre des lois divines.
Qui dirait quoi, en l'occurrence ?
Ah ben, qui dirait que c'est pas les droits de l'homme qui sont supérieurs à toutes les lois. C'est dans son esprit les lois divines. Lui, dans son esprit, le Coran, c'est un texte incréé qu'on ne discute pas, qu'on ne commente pas, qu'on n'interprète pas. Et peu importe le bien et le mal, ce qui compte, c'est le texte. Peu importe la raison, l'absurdité, ce qui compte, c'est le texte. La justice, peu importe, ce qui compte, c'est le texte.
Dans votre livre, Richard Malka, qui s'appelle Après Dieu, qui a été publié en avril 2025.
En janvier 2025.
Janvier 2025, vous parlez de l'Iran.
Eh oui, l'espoir perse.
Vous dites, je suis convaincu que les Iraniens montreront au monde le chemin de la sortie de la religion. J'attends ce moment depuis longtemps.
C'est vrai.
Nous sommes le 16 janvier 2026. Ça bouge en Iran.
Ouais.
Donc, ça arrive peut-être plus tôt que ce que vous aviez imaginé, non ?
J'espère. Je suis très ému de ce qui se passe en Iran en ce moment. Je pense que vraiment c'est l'espoir du monde, ce pays. Je prie le ciel laïque tous les soirs pour que ce soit la bonne cette fois-ci, qu'ils s'en sortent, qu'ils retrouvent leur liberté, qu'ils parviennent à un équilibre, j'allais dire de la force. Mais à un équilibre entre la religion qui avait été quasiment prohibée, très encadrée sous le Shah d'Iran, et puis qui est devenue une tyrannie, une théologie tyrannique. Et j'espère que à la prochaine révolution, l'Iran révolutionnera l'islam, parce que c'est ce qu'ont toujours fait les Perses. Et les philosophes perses, s'il y a dans l'islam une tradition séculaire, laïque, c'est paradoxalement dans le chiisme.
Richard Malka, dans votre livre donc Après Dieu, vous dites ceci: par peur d'être qualifié d'islamophobe ou pour se donner l'illusion de la générosité, une partie de la gauche s'est soumise au fascisme religieux. Par peur de l'islamisme, une partie de la droite a rejoint l'extrême droite. Tenir une ligne de raison est devenu un chemin de croix. Donc vous parlez de ce problème avec un vocabulaire quasiment religieux, chemin de croix.
Alors, oui. Mais je parle souvent de ces problèmes avec un vocabulaire religieux, parce que, en fait, ça a été ma formation aussi. J'ai eu une éducation religieuse. Je suis né dans une famille pas pratiquante, mais enfin, où le judaïsme était important. Donc, c'était plutôt très, très tranquille. J'en ai jamais souffert. Mais j'ai été éduqué dans ces références-là. Avec ensuite une totale liberté pour en faire ce que je voulais. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. Et j'écris pour ça, pour que chacun soit libre d'affirmer sa différence à l'égard de sa communauté d'origine, de sa religion d'origine, de et enfin ce qu'il en veut. C'est une richesse, mais parfois c'est aussi un boulet et un poids dont on a envie de se débarrasser. Et on a le droit. Et c'est tellement... C'est tellement d'épanouissement qu'on en trouve son propre chemin, qui impose parfois de rester un peu à l'écart de ses origines. C'est le droit d'affirmer ses différences à l'égard de ses différences pour citer, et d'être indifférent de ses différences pour citer Elisabeth Badinter. Donc oui, j'ai des références religieuses. Je plaide souvent la Bible. Voyez-vous, parce qu'on y trouve tout en fait. Mais pour moi, la Bible, c'est comme l'Iliade et l'Odyssée. C'est un livre incroyable. C'est ce qui décrit le mieux la condition humaine. Si on le lit comme ça, on y trouve une foule d'anecdotes qui permet de résumer ce que nous sommes et toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. En fait, on n'a rien inventé. Tout est déjà dans ces livres.
Mais Richard Maka, comment est-ce qu'il faudrait faire, par quel type de mesure on pourrait faire en sorte que la laïcité devienne un principe vraiment vivace? Puisqu'on a l'impression qu'elle est en effet très malmenée.
Alors,
En tout cas, risque de l'être.
Mais c'est un principe qui est aujourd'hui très remis en cause, en particulier par les jeunes générations, parce qu'il y avait un attachement viscéral dans nos générations à ce principe-là. Mais c'était tellement acquis. C'était tellement gagné.
On n'a pas été méfiant.
Qu'on a cessé d'en enseigner les vertus. Et qu'on n'a pas été méfiant, comme vous le dites, à l'égard du fait religieux, qui cherchera toujours à grignoter un peu de nos libertés. Donc, on a gagné. Et puis, on a perdu. Je pense que, immanquablement, sur le temps long, on retrouvera l'intérêt de ce principe laïque partout dans le monde, mais dans de nombreux endroits où les guerres de religion sont vivaces. Je pense à l'Irak, à la Syrie, en particulier à la Syrie, où le maire de Raqqa s'est fait élire kurde, s'est fait élire sur un programme laïque. On a conscience de l'utilité de ce principe-là, qui veut simplement dire vivez ensemble, en mettant vos lois religieuses de côté, parce que c'est le seul moyen de vivre ensemble. Qui veut dire liberté. Liberté pour les femmes, d'abord. Liberté, quel que soit votre genre, votre sexualité, ça ne nous concerne pas. Parce que ça ne concerne pas la loi, ça concerne les textes bibliques en général.
Mais qu'est-ce qui fait que, d'abord, on n'aime pas tant que ça la liberté? Et qu'est-ce qui fait que quand on croit...
Mais parce que ça fait peur, là.
On a envie que les autres croient de la même façon. C'est quoi le mécanisme psychologique? Est-ce que ça a été étudié, cela?
Ah, je sais pas si ça a été étudié, mais en tout cas, c'est très humain. Dostoïevski disait, il n'y a qu'une chose que l'homme préfère à l'esclavage... il n'y a qu'une chose que l'homme préfère à la liberté, c'est l'esclavage. Parce que c'est confortable d'avoir des commandements, d'avoir quelqu'un dans le ciel qui vous dit comment vous devez vous comporter, quelle est la réponse à telle situation. Du coup, vous n'avez pas à vous poser 1000 questions par jour. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est...
Vous avez un guide.
Vous avez un guide. C'est tellement plus réconfortant. Mais même moi, parfois, je me dis, mais quelle chance les gens ont de croire en Dieu. Parce que c'est... C'est pas facile. J'y peux rien, je crois pas. Je vais pas me forcer non plus. Mais donc oui, la liberté, c'est un défi. C'est pas du tout confortable en fait. Mais okay. Ça fait une vie, je crois, tellement plus riche au final. Et pourquoi on a envie que les autres croient ? Pour moi, c'est très croient la même chose que vous. Alors pour moi, c'est très étrange parce que j'ai pas du tout envie d'imposer ce que je suis à d'autres. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vivre avec quelqu'un qui pense différemment de moi. Enfin, avec certaines limites quand même, mais c'est plus enrichissant. Mais oui, je constate que je sais pas s'il y a des il y en a sûrement hein, des études là-dessus, mais ça permet d'éviter de se remettre en cause.
Et ça, c'est douloureux, la remise. Est-ce que dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus contradictoire, l'envie de croire de façon telle qu'on est guidé dans tous les actes et dans tous les choix de sa vie ne va pas être une tentation de plus en plus irrésistible?
Je crois que si.
Donc l'avenir, c'est quoi alors? Vous dites l'avenir, c'est plutôt une laïcité qui va s'imposer pour empêcher les guerres de religion.
L'avenir, c'est l'espoir perse, je vous le dis. Je vous le redis. Parce que eux, quand cette révolution aboutira, ils ont bien en tête les dangers du fait religieux et les avantages de la laïcité. Et ils nous donneront l'exemple. Maintenant, oui, je crains que vous n'ayez raison. Que le balancier n'aille pas dans le bon sens en ce moment. Je pense pas qu'on puisse faire grand chose pour inverser le mouvement. On peut pas, en fait. Mais il nous incombe, et c'est en tout cas quelque chose que je ressens comme un devoir, d'essayer de planter des petites graines modestement pour quand le balancier ira dans l'autre sens. Pour laisser des outils à ceux qui nous suivront.
C'est une parole d'espoir, mais est-ce que vous ne plaidez que des affaires qui ont trait à ces histoires-là, ou est-ce que vous avez d'autres types de dossiers? En ce moment, par exemple, vous travaillez, en ce moment, vous préparez quel type de plaidoirie?
Non, mais ça, je plaide dans des affaires pénales. Au mois de décembre, j'ai passé mon mois de décembre à plaider dans une affaire d'escroquerie au jugement, de corruption. Oui, heureusement ça. Et pour le coup, je dirais pas que c'est une récréation, parce qu'il y a des enjeux humains qui sont importants. Mais
c'est moins lourd.
Oui, la pression est en tout cas politique est moins forte et j'en ai besoin. Je ne pourrais pas être constamment sur le devant de combats politiques. J'y arriverai pas.
Richard Malka, ça fait une heure qu'on discute quasiment. Je suis toujours pas au clair sur ce qu'on appelle une loi.
Mais c'est normal. C'est plutôt bon signe.
Ça veut dire que c'est un peu comme la physique quantique.
C'est ça.
Niels Bohr disait, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Vous avez été à peu près clair, mais...
Mais vous n'avez toujours pas compris. J'ai rempli ma mission.
Non, mais j'ai compris, mais je n'ai pas la réponse à la question que je m'étais posée.
Non, mais parce que c'est normal, c'est complètement relatif. Du point de vue d'où vous le regardez, c'est différent.
Peut-être qu'il faudra que vous reveniez, finalement, Richard Malka.
Plaisir.
En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de vos deux derniers livres. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et vous avez aussi écrit des bandes dessinées.
27.
27 bandes dessinées. Et peut-être qu'il faudra en reparler un jour. Donc, vos livres s'appellent « Après Dieu » chez Stock. Le deuxième s'appelle « Passion antisémite » chez Grasset. Merci à vous. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation et la mise en onde, soit de Boukorsa.